Bonsoir, chers auditeurs. Alors, pour vous mettre du baume au cœur, nous allons parler randonnée. Bah oui, dans un mois, c'est le printemps, donc il faut commencer à y penser. Et alors, je vais vous faire découvrir le chemin du Piémont Pyrénéen, qui n'est autre qu'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour vous en parler, j'ai invité Béatrice Ourliac, qui fait partie de l'association Les Amis de Saint-Jacques, et Jean-Claude Pistre, qui est le maire d'Arzens. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir Valérie.
Alors Béatrice, quel est le rôle déjà de cette association et depuis quand existe-t-elle ?
Alors, cette association existe depuis 4 ans. Il faut savoir qu'auparavant, il y avait quand même un gîte, mais je vous en parlerai un peu, de façon un petit peu plus détaillée tout à l'heure. Donc, cette association est composée de 8 hospitaliers qui prennent leur garde à tour de rôle tous les 15 jours. Bien sûr, ce sont des bénévoles. Et donc, ils gèrent un gîte qui est situé salle polyvalente dans un bâtiment communal.
Et le rôle donc de ces pèlerins, vous dites qu'ils prennent une permanence tous les 15 jours.
Non,
les hospitaliers.
Les hospitaliers oui. Prennent une permanence tous les 15 jours, dont le but est d'accueillir les pèlerins qui prennent le chemin du Piémont, puisqu'à Arzens, c'est situé à 19 km de l'abbaye de Carcassonne, qui est le départ officiel du chemin du Piémont pyrénéen, sur le GR78, au Pont-Vieux, et à 19 km de Fanjeaux. Donc c'est une étape.
Oui,
très bien situé, voilà, au point de vue kilométrique.
Qui est équilibré, oui.
Qui est équilibré. Et donc, le relais fonctionne sur le mode donativo, ça c'est important de le dire. Donc nous avons fait ça, nous avons choisi cette formule pour respecter le plus possible l'esprit du chemin.
C'est-à-dire que les gens ne payent pas.
Si.
Ils donnent ce qu'ils veulent.
Ils donnent ce qu'ils veulent.
D'accord.
Donc chaque pèlerin laisse la somme qu'il souhaite, sachant que cet argent, bien évidemment, va servir à améliorer le confort de l'existant ou à acheter de l'alimentaire. On pourra le détailler de façon plus importante, si vous le voulez, tout à l'heure. Alors l'intérêt de se constituer en association, parce qu'il y a quand même un intérêt là aussi, permet de pouvoir intégrer toute personne intéressée et on peut ainsi espérer pérenniser la suite. Parce que nous ne serons pas hospitaliers jusqu'à...
Eh oui, voilà,
il faut... Jean de Calmage, j'en ai 20 ans, mais bon, voilà.
Donc, ça veut dire, quand vous avez commencé à accueillir des pèlerins sur le village d'Arzens, vous avez commencé dans ce même bâtiment ou vous avez commencé comment ?
Non, alors, il faut savoir que le gîte a été... la création du gîte a été impulsée par M. André Gaulle, qui était alors maire d'Arzens.
D'accord.
Et a été inaugurée par M. Jean-Claude Pistre, ici présent, le 14 juillet 2008, c'est bien ça, au début du mandat donc, de M. Pistre. Et le gîte était au-dessus du café.
D'accord.
Voilà. Puis pour des raisons d'ordre privé, donc...
Puis c'était petit, enfin moi je me rappelle, je l'ai connu.
Voilà. C'était petit, bon... C'était
vous
pas...
débutiez quoi.
Voilà.
Alors justement on a Monsieur Pistre qui est là et c'était intéressant d'avoir le maire du village. Donc vous êtes arrivé, vous avez inauguré ce lieu et donc maintenant on a un gîte d'étape qui est beaucoup plus grand parce que c'est dans l'ancien
ancienne école de
du village
centre ménager, c'était un centre ménager, oui. Ensuite ça a été la cantine scolaire et donc après ça a été la salle polyvalente.
D'accord. Et donc là on a toujours donc 8 couchages hein, si je
8 couchages, j'avais possibilité de mettre un 9e et donc on a aménagé aussi une petite cuisine pour qu'ils puissent faire prendre leur petit-déjeuner, leur petit repas du soir quand ils arrivaient. Et donc nous avons aussi aménagé une salle d'eau, etc. Donc et c'est très bien géré par les hospitaliers.
Donc vous mettez juste en fait le local à disposition de l'association. Il y a un loyer, il y a quelque chose. Ça se passe comment ?
C'est gratuit, entièrement gratuit. Les hospitaliers gèrent les oboles. C'est eux qui se gèrent les oboles. Alors avec cet argent, ils achètent du matériel essentiellement
micro-ondes, il y a toujours plein de choses à acheter.
Voilà, du matériel et puis de couchage aussi, ils remplacent les couvertures,
la literie.
La literie, voilà.
Enfin, voilà, il y a toujours un tas de choses.
Voilà.
Et qu'est-ce que ça change pour vous ? Enfin, vous parlez certainement avec d'autres homologues de village. Est-ce que ça change quelque chose d'être une étape jacquaire quand on gère une commune ?
Alors, premièrement, ça met en valeur le village. Ensuite...
Il y a combien de personnes qui passent ? Si on prend l'année 2016, ça fait combien de pèlerins à peu près accueillis ?
170.
D'accord.
170 pèlerins, oui, qui passent sur le village. Donc, bien sûr, ils visitent les, l'église, ils prennent des fois le repas au, au café-restaurant. C'est un plus pour le village.
C'est une économie de créer, oui.
Voilà. Alors, mairie, nous, on assure aussi les permanences, c'est-à-dire qu'il y a des pèlerins qui téléphonent en mairie et on les met en contact avec les hospitaliers.
D'accord. Voilà. Donc, il y a, oui, effectivement, il y a un lien entre la mairie et l'association.
Tout à fait.
Donc, ça veut dire aussi que le personnel communal bah, est formé aussi au fait qu'il y a des pèlerins qui viennent sur le village et qu'il faut les renseigner et donner les bons numéros de téléphone.
Voilà.
Et vous avez donc des projets. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez aussi des projets de changer de lieu pour alors, accueillir les pèlerins.
Pour le moment, c'est à l'étude hein, d'essayer de... d'agrandir le, leur façon, enfin leur capacité de logement. Il était question du presbytère, mais ça c'est une étude que nous avons en conseil municipal. Par contre, nous allons faire aménager un café-restaurant, puisque celui qui est existant se trouve un peu, est arrivé à pleine maturation, donc est trop exigu, et nous allons faire donc à l'ancienne mairie le café-restaurant.
Un peu type bistrot de pays.
Bistrot de pays, et donc on pourra accueillir un peu plus de pèlerins éventuellement, et puis un peu plus de visiteurs sur le village.
Et donc ce sera un projet où vous allez demander des financements européens sur le programme Leader.
Tout à fait.
Entre autres, parce qu'après il y a plein d'autres.
Par le biais du GAL du pays carcassonnais, nous allons établir un dossier pour bénéficier de ces fonds européens et puis piocher aussi dans les partenaires que nous avons habituellement.
Pour finir, moi, j'aimerais que Béatrice, vous nous racontiez quel est le lien entre les pèlerins et le restaurateur, la boucherie, la boulangerie. Comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a un lien avec tous ces commerces sur le village?
Alors, il est évident qu'il y a un lien parce qu'il y a forcément un intérêt économique. Alors bon, il peut paraître marginal maintenant, puisque quand on parle de 170 personnes, il est évident que tout le monde ne va pas ni au café ni à l'épicerie. Et ça peut paraître marginal parce qu'on ne peut pas vivre avec 170. Mais... on est persuadé, et ça, tout le monde va dans ce sens, que le Piémont va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de pèlerins, donc de plus en plus de potentialité d'acheteurs éventuels.
Surtout que là, c'est 170 pèlerins, mais sans aucune communication, c'est uniquement le bouche-à-oreille. Alors, pour l'instant, ce n'est pas repris par les offices de tourisme et autres, ou très peu. Quoi.
Nous, les jaquets modernes, comme je les appelle, avant les jaquets, il n'y avait pas d'écrit sur le chemin de Saint-Jacques et se donnait l'information de bouche-à-oreille. Maintenant, les jaquets modernes, c'est Internet. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de pèlerins qui passent, qui nous disent, dès que je rentre chez moi, je vais sur Internet dire tout le bien que je pense, parce que bon, on fait en sorte qu'ils soient bien accueillis. C'est le but aussi d'être hospitalier, sinon ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que, si vous voulez, quand ils prennent... bon, nous, on est en lien avec la mairie. Donc, souvent, celui qui veut s'arrêter à Arzens téléphone à la mairie. Et la mairie a la liste de l'hospitalier qui est de garde. Donc, elle donne le numéro et le pèlerin nous appelle directement. Et nous, à ce moment-là, on lui donne toutes les informations possibles. C'est-à-dire, on lui dit qu'il y a une boulangerie, une épicerie, un café...
Une pharmacie.
Et une pharmacie.
Ah, très pratique, oui, pour les pèlerins, c'est la pharmacie.
Pour d'éventuelles ampoules. Bon, ça n'arrive jamais qu'un pèlerin ait des ampoules, mais sait-on jamais.
Voilà. Faut prévoir, c'est mieux.
Et ensuite, le café, parce que bon, on a quand même un cafetier qui joue le jeu, parce que même s'il n'y a qu'un pèlerin le soir accueilli, il ouvre pour un pèlerin. Et il fait des repas pèlerins à des prix raisonnables. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu marginal sur le plan économique, mais je pense que c'est quand même intéressant. Et surtout, surtout, nous sommes persuadés que cela va se développer.
Absolument. Oui, le chemin de Saint-Jacques, on va dire les plus connus commencent à être des autoroutes. Et les gens cherchent de plus en plus à avoir un chemin un peu plus tranquille.
Il y a quatre grandes voies, mais il est vrai que... Bon, moi, j'ai déjà fait le chemin et je suis en train de refaire un autre. Donc, je peux parler en toute connaissance de cause avec d'autres pèlerins qui ont fait 3-4 fois le chemin. Quand on a commencé à en faire un, c'est rare qu'on s'arrête à un. Mmh, voilà, quand on y met le pied, c'est fini.
Et puis, les Audois qui nous écoutent, il faut aussi leur dire que s'ils veulent tester le... S'ils n'ont jamais fait un sentier de Saint-Jacques, eh bien, peut-être commencer par le piémont pyrénéen pour voir un petit peu comment on vit les choses. Ben, ça peut être une bonne chose. C'est vraiment, on va dire, une étape test un petit peu. Et puis, c'est chez nous, autant le
découvrir. Chez nous, voilà.
Hein, voilà. On fait une pause musicale. On va écouter Monsieur Goldman nous chanter Ton autre chemin. On reste dans la même thématique.
D'aussi loin que je me souvienne, bribe d'enfance, bout de scène, tes yeux, ton visage et ta main dans ma main, et nos pas sur le même chemin. Nous n'étions pas très bavards, un peu bizarres, un peu à part. J'aimais tes silences et tu aimais les miens. Muets, nous nous entendions bien. Tu étais un peu différent, et moi je n'étais pas comme eux, un peu méprisant pour tous leurs jeux d'enfants. Nous pleurions les yeux dans les yeux. J'ai reçu tes premiers poèmes, comme on berce de quelques mots. Nos rires étaient chacun touchant l'autre en écho. Je t'ai joué mes premières notes, tu écoutais les yeux mi-clos. Simple et malhabile, un peu fausse, un peu sotte. Je n'entendais que tes bravos en saluant devant le piano.
On a commencé à se perdre de vue à l'adolescence. Je te trouvais un peu trop austère, un peu trop sérieux, un peu trop secret. Moi, j'avais besoin de musique, de lumière et de futilité. Et aussi des autres. Était exigeante, entière, exclusive. Et puis tu as commencé à être absent, souvent, puis plus longtemps. Ta mère nous disait que tu partais en vacances. Elle ne mentait pas quand j'y pense. En vacances de vie. En vacances d'envie. Et puis la vérité, celle qu'on suppose, celle qu'on cache.
Alors nous retrouvons Béatrice Urliac de l'association Les Amis de Saint-Jacques à Arzens, et puis Monsieur Jean-Claude Pistre, le maire d'Arzens. Alors c'est Béatrice qui se colle au coup de cœur touristique, et on va commencer par le coup de cœur touristique dans le monde, hormis la France, Béatrice.
Alors mon coup de cœur touristique pour le monde, c'est le désert du sud marocain.
Alors évidemment vous y avez marché, j'imagine.
Évidemment, évidemment. Donc, ce qui peut paraître un cliché, arriver en 4x4 puis balader à chameau avant d'atteindre la dune de Merzouga, à 150 mètres, dans le sud du Maroc, eh bien, ça, c'est pas du tout cliché. Ça dépend de la façon dont on le vit et dont on le regarde. D'abord, deux petits accompagnateurs, adorables, et puis ensuite, l'escalade de la dune. Oh, l'escalade de la dune, génial, très simple. Ben, sauf qu'au bout de 5 minutes, j'étais bien contente que les deux petits accompagnateurs me donnent leur main pour la monter, parce que c'est pas aussi évident que ça. Bon, arrivé au sommet, on s'est assis tous ensemble à la, sur la dune. Alors là, quand on arrive en haut de la dune, magique, pas d'autre mot, magique. Comme une mer, mais une mer de sable. Un sable orangé d'une couleur jamais vue auparavant et d'une douceur qui vous file entre les doigts, mais c'est comme de la soie.
Ah bah vous nous donnez la chair de poule, rien qu'en racontant ça.
Non, mais je vous jure, j'aurais jamais compris. Et donc là, du coup, je me suis dit, mais je comprends mieux Saint-Ex, je comprends mieux Roger Frison-Roche, cet amour pour le désert. Bon, j'étais allée parce qu'aller au sud marocain, je me suis dit, il faut quand même aller voir le désert, mais pas convaincue du tout. Mais alors là, franchement, si vous allez au sud du Maroc, ne loupez surtout pas le coucher du soleil dans le désert. C'est plus... On ne peut pas s'imaginer.
Alors, coup de cœur touristique en France, hormis l'Occitanie.
Alors, là, je serai un petit peu plus brève, parce que je n'y suis pas vraiment allée. Enfin, j'y suis allée, mais alors en voiture.
C'est nul.
Surtout pour une randonneuse. Ah, oui. Je te l'accorde, Valérie. Bon, mais c'est une envie. Un rêve de marcheur qui est encore accessible parce qu'ils mettent de plus en plus de contraintes.
Bon, notamment l'été avec les incendies.
En même temps, c'est pour les protéger, donc on ne peut pas être absolument contre. Et donc, bon, je sais qu'elles font partie du parc national du GR 98. Bon, et là, c'est vrai que c'est une succession de criques aux falaises quelquefois abruptes, où l'on peut admirer le travail de l'érosion, jusqu'à 150 mètres de dénivelé, avec de merveilleuses plages de sable fin. Mais elles sont quand même très, très, très fréquentées.
Oui, voilà, je pense que c'est un peu l'autoroute. Il faut faire ça l'hiver, en fait, je pense, pour déjà être un peu plus tranquille.
Voilà, certainement.
Si on avait un conseil
à
donner.
Mais maintenant, on loupe la baignade.
Ah, ben on peut pas
il
tout avoir.
Il faut faire des choix, voilà, il faut faire des choix.
On peut pas tout avoir.
Exactement.
Coup de cœur touristique en Occitanie, hormis l'Aude.
Alors, là, je peux en parler parce que j'y suis allée quand même. Ça m'arrive d'y aller, autrement qu'en voiture,
ah,
souvent
oui,
à pied.
Heureusement.
Alors, ce sont les orgues d'Île-sur-Tête qui sont situés dans les PO. Alors, on y accède par des chemins bordés de garrigues. Donc déjà, c'est très, 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 très beau. Et pour quelqu'un qui marche, on se régale. Il faut quand même compter environ une heure de marche. Mais c'est une marche facile, je rassure tous les auditeurs.
Oui, il n'y a pas de montée, c'est plat déjà.
Exactement, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et alors, on débouche alors sur un paysage formé par la nature, mais que l'on pourrait croire sculpté par l'homme, tellement c'est magnifique. C'est à partir de mauvaises terres pour l'agriculture qui se sont formées les orgues, une terre où l'érosion se fait facilement, bien entendu, laissant place à d'étroits et profonds ravins qui ressemblent à des tuyaux d'orgues, d'où leur nom. Alors, des orgues géantes, bien entendu. Et donc, c'est un témoignage de l'évolution des reliefs dans les PO, puisque les orgues mesurent quand même entre 10 et 12 mètres de haut. Donc, c'est quand même assez impressionnant quand on y est. On se sent petit quand même.
Il n'y a pas trop de monde.
Alors, paradoxalement, non. Enfin, nous, quand on y est allé, en tout cas, on a peut-être été...
C'était quelle période ? Printemps, plutôt, automne ?
Non, au printemps.
Au printemps,
et,
d'accord.
Non. Il y avait quelques personnes, mais c'est pas vraiment envahi. Pourtant, j'ai lu récemment sur le site, ils recevaient 50 000 visiteurs par an.
Ah, quand
donc,
même.
On peut dire que
voilà.
Oui.
Mais parce que c'est gratuit, c'est accessible à tout
alors,
le monde.
Alors, non.
Ah,
voilà.
C'est payant, d'accord.
Alors, c'était gratuit jusqu'à présent. Et maintenant, le site n'est plus en accès libre. C'est devenu une attraction touristique, quand même, il faut le savoir. Mais le bon côté, c'est que cela joue aussi à la préservation du site.
Tout à fait.
Voilà.
Et puis, voilà. Ça fait de l'économie pour le territoire.
Exactement.
Donc c'est très bien. Coup de cœur touristique dans l'Aude, hormis le pays carcassonnais.
Alors, hormis le pays carcassonnais, je voudrais dire un mot sur la falaise de la Franquie. Alors là aussi, vous allez me dire, c'est un cliché, on en a entendu parler, reparler. Oui, d'accord. Mais, vous savez...
C'est un très beau site. Hein,
voilà,
donc,
c'est
magnifique. Ça vaut la peine.
Ça vaut la peine. Donc, c'est situé d'un côté, il y a le Cat, de l'autre côté, la Franquie. Alors, bon, c'était d'abord un vignoble composé de petites parcelles. C'est un véritable labyrinthe bordé de petites murettes en pierre sèche et d'amandier. Ce qui nous laisse admiratifs par le travail accompli par nos anciens, quand même. Hein, parce que, bon. À ce propos, d'ailleurs, allez faire une balade avec les amandiers en fleurs et surtout, n'oubliez pas votre appareil photo. Là, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le déplacement.
Ah oui, il y a de très belles photos à faire.
Voilà. Au bout de la falaise, côté Franqui, la tête de la sorcière en garde toujours l'entrée de la station. Bon, je vous passe la redoute de la Franqui de haute Franqui, construite sous le règne de Louis XIV. C'est un des derniers vestiges des trois forts qui gardaient les côtes.
D'accord.
Voilà.
Ah, mais c'est toujours bon à savoir.
Voilà. Ça. C'est la porte du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Voilà. Et la falaise offre une diversité de faune et de flore.
Et est protégée.
Alors, c'est là où le bât blesse. Bon, c'est un lieu historique pour moi de l'agriculture. Alors, je vous ai dressé un bien beau tableau jusqu'à présent. Oui, mais fragile et aujourd'hui menacée. Il y a eu la construction d'un restaurant panoramique en bout de falaise, avec tout autour un grand espace réservé au parking pour le restaurant. Les autochtones et les vacanciers n'y ont plus accès. D'extrusion des murets, alors pour créer des parcelles plus grandes et plus facilement exploitables.
Mais je croyais que la construction était interdite sur cette falaise.
Ah oui, il faut croire, mais voilà. Ce qui est interdit quelquefois autorisé, on ne sait pas par quel tour de magie. Je vais dire, appeler ça de la magie parce que je n'ose pas employer un autre mot. Mais je peux vous dire que ça laisse beaucoup d'aigreur dans les gens qui aiment la Franqui. Parce que la Franqui, on l'aime ou on ne l'aime pas. Mais si on l'aime, on en est amoureux. Et quand on est amoureux de quelque chose, on ne veut pas le voir détruire. Et là, c'est entré, il y a même des projets pour la Franqui elle-même, la petite station qui est une station familiale et qui est extraordinaire parce qu'il n'y en a pas d'autres dans la région.
Ah oui, elle est vraiment typique. Oui.
Et oui. Mais malheureusement, il y a de grands projets avec des hôtels de luxe, comme si on avait besoin d'hôtels de luxe à la Franqui. Ce n'est pas ce qu'on recherche à la Franqui. On recherche justement le côté familial, le côté avec
ancienne station des années 60.
Bien entendu. Exactement.
L'hôtel de la plage.
Ah, l'hôtel de la plage, il n'existe plus.
Et oui, mais oui, je sais. Mais ça me fait penser à ce film où vraiment, c'est vraiment ce type de
mais
station.
Mais il y a encore un parc avec quelques petits manèges. Alors, ça n'a rien à voir avec les manèges d'ailleurs. Hein. Mais tout le monde adore ce petit parc avec des manèges. Et en face, il y avait une maison de retraite avec un grand parc. Et là, soi-disant qu'il y a un projet de racheter tout ça pour faire un hôtel, alors 4 ou 5 étoiles, je ne sais pas combien on peut avoir d'étoiles, des étoiles plein les yeux. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, les étoiles, on veut les voir dans le ciel à la Franqui, on ne veut pas les avoir accrochées à un panneau d'un hôtel.
Oh, ils feront peut-être quelque chose de très bien intégré. Mais en
peut-être,
tout cas...
mais on a très peur, parce qu'on veut conserver nos forêts. Parce que nos forêts aussi, ils font partie de la Franqui entièrement.
Ah oui, c'est vrai. Bon, ben ça rentre. Il faut rentrer dans des négociations.
Oui.
Et pour finir, le coup de cœur en pays carcassonnais.
Ben, je ne pouvais inévitablement pas parler du massif de la Malpère.
Ah ben oui, ça c'est incontournable. C'est incontournable.
Voilà. Donc, comme vous le savez, bon, il est situé à l'ouest du département. Bon, et que le nom de Malpère signifie en occitan « mauvaise pierre ». Voilà, mauvaise pierre, parce que la terre n'était pas trop favorable à une culture assez riche. Donc, culture de la vigne. Bon, les vins dans le massif ont une bonne réputation, ils n'ont plus à faire. Alors, l'essence dominante est le chêne, mais on trouve aussi le chêne vert, le hêtre, de façon minoritaire. Parce que le massif de la Malpère, sa particularité, c'est qu'il a deux influences. L'influence méditerranéenne, mais aussi océanique.
C'est vrai que ça en fait un massif complètement à part.
Complètement à part.
Et très proche de la cité, puisque c'est vraiment à juste quelques kilomètres.
Bien entendu.
Et en même temps, c'est une zone qui est déserte, où on se retrouve au bout du monde avec une vue sur les Pyrénées d'un côté et la montagne noire
c'est
de l'autre.
Magnifique.
C'est magnifique. Merci Béatrice pour ces coups de cœur.
Mais je vous en prie Valérie.
Chers auditeurs, pensez à ce chemin de Saint-Jacques sur le chemin piémont-pyrénéen. Ça peut être un bon test pour voir si vous êtes fait pour le chemin de Saint-Jacques. Et puis je crois que monsieur le maire, Jean-Claude Pistre, avait un rêve. Alors faites-le nous partager ce rêve.
Bon, eh bien mon vœu le plus grand, le plus cher, serait que ce chemin du piémont pyrénéen de Saint-Jacques de Compostelle soit classé au patrimoine de l'UNESCO, ce qui ferait trois sites sur le territoire de Carcassonne Agglo.
Et qui développerait en plus une belle économie.
Une
belle renommée. Merci beaucoup à vous deux pour ce bon moment passé en votre compagnie. Le mois prochain, nous retrouvons Magali et Antoine Lacuve du camping Le Moulin de Sainte-Anne à Villeugly. Passez un bon week-end, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.